Les dérangés.
Les dérangés.
L'actu en bazar sur le 103 FM.
Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
Tous les derniers mercredis du mois de 19h à 20h sur Radio Campus Angers.
Et donc il y a un autre aspect aussi que je souhaite souligner et qui est aussi un peu une signature de Damien Chazelle, c'est la beauté des images et la vivacité des couleurs qui nous plonge vraiment encore mieux dans l'histoire, et franchement je trouve que c'est trop fort. Et aussi évidemment il faut saluer les performances phénoménales des deux acteurs, même si il y en a un qui crève l'écran, hein, c'est bien J.K. Simmons qui a d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, et peut-être finalement la revanche du professeur qui l'incarne. Et donc ce film, je trouve vraiment, il vous emporte avec lui dans la passion d'Andrew, parce que on comprend vraiment, on veut sa réussite, même parce qu'en fait on a l'impression d'être autant passionné que lui. Et aussi évidemment j'ai beaucoup aimé la scène où les deux discutent dans le jazz bar, et en fait on apprend, on en sait plus sur le professeur et pourquoi il torture ses élèves autant. Et en fait il sait que ses élèves sont talentueux et il veut vraiment pas gâcher ce potentiel là, et c'est ce qui nous permet en fait de mieux comprendre pourquoi il agit comme ça, mais sans pour autant excuser ses techniques. Et ce dialogue, je trouve qu'il ajoute vraiment de la profondeur au personnage, qui tout de suite devient moins détestable, et on sentirait presque un peu de la tendresse pour lui. Bref, on va en discuter, mais j'espère que cette introduction vous a donné envie d'aller le voir, parce que ce film, c'est une vraie claque de cinéma. Donc pour ce débat, on va se retrouver avec Germain, Clément, Titouan, Victor, moi-même et Alice, et Sarah qui est à côté de Alice. Donc si elle doit faire d'intervention, elle est bien sûr la bienvenue. Qui veut commencer? Allez-y, qui veut se lancer?
Moi, je veux bien commencer. Alors, déjà, je suis d'accord avec toi. C'est un film que j'ai beaucoup adoré, moi aussi, pour le coup. J'ai beaucoup apprécié la musique, pour commencer, qui était vraiment frappante et une partie très importante du film. Et cette dualité aussi des couleurs. Parce qu'en fait, je pense, si on fait une chromatographie du film, en fait, la majorité du temps, l'ambiance, elle est jaune et noire. Ouais. Enfin, je pense que vous l'avez remarqué, lumière jaune et le fond noir autour. Et je trouvais ça vraiment très intéressant. Mais je savais pas comment l'interpréter, en fait. Enfin, je sais pas comment vous l'avez vu, ça. Mais je sais pas. Enfin, c'est quoi la volonté derrière cet apport du réalisateur de faire en sorte que tout le film se passe dans des endroits où c'est jaune et noir. Je sais pas ce que ça.
Moi, je sais même pas si ça a une importance, si.
Si, en vrai, parce que. Enfin, genre.
Non, mais oui, mais ça peut juste être un choix esthétique.
Ouais, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a un côté un peu champ de bataille. Je sais pas vous, mais en fait, le film, je trouve le montage, ou même juste l'entièreté du film. Parce que je sais pas si vous avez vu le film en novembre, ou des films un peu comme ça, un peu suspense, où il n'y a pas de grande bataille finale. Enfin, c'est genre. En fait, le film Whiplash, je trouve qu'on est stressé, mais pendant tout le film.
Oui, très.
Genre les cuts, tout le montage, je trouve il est fait comme un film d'action. Ça s'arrête. Et genre c'est vraiment, je pense que les images, les couleurs et tout, je pense que ça a un lien avec ça. Je trouve que c'est une ambiance est assez cool.
Moi je trouve que ça révèle un peu l'intensité aussi de ce qui se passe. Par exemple, tu vois, à un moment dans le dîner, quand il discutait avec son, je crois que c'est son nom, je sais plus, tu sais, c'est plus calme, plus tamisé, alors que par exemple dans la scène où il y a le tempo, etc. C'est hyper vif, je trouve.
Ouais.
Les contrastes, tout, même la scène de fin, t'as plein de couleurs, plein de. Tu sais, c'est jaune et tout, c'est hyper. C'est vibrant, tu vois. Je pense qu'en vrai, c'est par rapport à l'action. Mais oui, c'est vrai que moi, quand je l'ai vu, je m'attendais pas du tout à autant d'action que ça.
Bah oui, c'est un film d'action. Ça peut faire penser à des films de boxe, genre Creed et tout, Rocky. La façon dont ils filment, par exemple, les coups de timbales et tout, machin. Enfin, c'est même pas. Oui, si, de timbales, etc. On a des gros plans, comme quand on a des uppercuts ou simplement des coups de poing, des coups de pied dans des films d'action. Bah là, c'est pareil. C'est qu'il arrive à créer à travers juste la batterie, qui est certes un instrument où on est vachement en action,
très physique.
Il arrive à nous faire croire, comme Titouan a dit, ça peut être un argument, que pas qu'on est sur un champ de bataille, mais qu'on est véritablement dans un combat entre celui qui joue et l'instrument. Enfin, j'avais l'impression que c'était ça.
Je suis d'accord avec toi, et je trouve que ce combat là cette dualité, en fait, elle s'incarne bien dans la scène où, tu sais, il est là, il fait not my tempo. Quand il cherche le tempo, il fait not my tempo. Stop. Et en fait, à chaque fois, il est là, il recommence, et lui, il dit non, stop. Et je sais pas, il y a vraiment toute l'intensité, en fait, elle réside dans le personnage, en fait, Fletcher. Et toute l'intensité du film, en fait, elle réside dans ce personnage-là, parce que quand il est en dehors de, quand, on le voit, quand il est pas dans l'écran en fait, c'est, il a une vie assez
banale,
bah, assez banale. Avec sa copine, il y a pas trop d'intensité. Enfin, il y a de l'intensité, mais tu vois la relation, la façon dont elle est décrite, c'est pas, enfin, c'est pas un film d'amour quoi. Ça tourne pas autour de ça. C'est juste pour montrer que bah c'est secondaire dans sa vie pour lui, etc. Et vraiment, du coup, vraiment, c'est vraiment Fletcher qui amène toute cette intensité, bah, déjà dans son regard. Enfin, il est excellent.
Et lui-même, ouais, il y a un combat entre lui et.
Et voilà, il y a un combat. Et je trouve, du coup, bah, pour la scène de fin, qui est, je pense, l'une des plus belles scènes de fin que j'ai vues dans le cinéma,
ah ouais,
pour moi. Ah ouais, oh, parce que. Facile. Bah, en fait, c'est la façon dont. En fait, il s'affronte. Tu vois, il lui dit, ouais, je sais que c'est toi, tu me prends pour un con. Il arrive, il dit, je sais que c'est toi, tu me prends pour un con. Et après, il est, et après, du coup, il s'affronte. Enfin, c'est bizarre la façon
dont, ouais, t'as raison,
dont, ouais, dont il met de l'intensité. Il se bat sur sa batterie. Enfin, il part, il revient, il se met à jouer, etc. Et après, du coup, au final, il y a une, je sais pas, une symbiose entre eux.
À la fin, ouais,
et à la fin, en fait, ils sont réconciliés. Je sais pas par quelle manière, mais par, bah, par la musique ou par son jeu.
Là, il a, pour moi, c'est qu'ils se sont réconciliés parce qu'il a montré son vrai niveau. De,
à quel point. Il a montré, ouais, que ça pouvait être le par cœur qu'il l'a jamais, ouais, eu, etc.
Carrément.
Et puis même, il y a des plans pour revenir au truc de la bagarre, d'affrontement, etc. Enfin, le film d'action qui est en fait un film de musique. Même quand il y a des plans avec le sang qui peut tomber. Ouais. Enfin, c'est vraiment un sentiment de bagarre. C'est vraiment un sentiment, ouais, d'un maître ou d'un bourreau qui va essayer de le pousser au plus loin de ce qu'il peut aller, parce qu'en réalité, il a plein de points négatifs, et enfin, c'est un connard, je veux dire, Fletcher, enfin, il a poussé au suicide un de ses élèves, etc. Mais, enfin, je sais pas si vous avez déjà eu des profs comme ça, qui peuvent être très, très, très exigeants, mais des profs avec qui on n'a jamais été autant meilleur que ce qu'on aurait été, parce que,
l'intention.
Moi, je pense que ça part d'un truc frustré aussi, hein. Enfin, ouais, juste, après, c'est pas du tout mis dans le film, hein, c'est pas l'histoire du film, on voit même pas l'histoire de Fletcher et tout, mais je me dis, pour moi, c'est pas, enfin, genre, tu peux pas pousser autant les gens à bout comme ça sans être frustré, avoir une part de frustration en toi.
Tu penses que cette frustration, elle viendrait d'où? Genre, tu penses que c'est parce qu'il n'a pas été assez bon dans sa jeunesse pour être
musicien? En vrai, on le sait pas, mais je sais pas. Pour moi, je me dis, ça peut pas être justifié juste par le fait qu'il veut être le meilleur. Enfin, en mode quand même pousser au suicide, même genre, je sais pas. En plus, je trouve que l'effort dans le film, tu le ressens physiquement quand tu le regardes, genre quand il s'entraîne, quand il sue comme ça et tout, tu le sens physiquement, et même que bah. Enfin, il s'y perd lui aussi, quoi. Enfin, en vrai, c'est. Enfin, je veux bien, tu te pousses à être le meilleur et tout, mais c'est pas une vie de tout larguer pour. Enfin, après, si, c'est
moi,
vrai.
Moi, je suis pas d'accord.
Ouais, okay. Je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord parce que en fait.
Attends. T'avais fini?
Non. Et du coup. Et non, bah, c'est bon. Je sais plus ce que je voulais dire. Vas-y, parle.
Non, mais du coup, sur le fait que bah, ce soit que lui, il pousse trop ses élèves. En fait, lui, c'est. Enfin, il est au-delà d'être un musicien, c'est un professeur. En fait, c'est ça qu'il veut montrer. C'est que lui, son aboutissement, c'est pas d'être lui-même un excellent artiste, c'est que lui, il veut être le meilleur professeur possible et avoir le meilleur élève possible. Et pour ça, bah, il y a que en poussant les gens, et c'est pas. C'est
après,
pas,
oui,
c'est pas la projection c'est ça, de sa personne.
Jamais il voulait parler, je crois.
Pardon.
Oui. Vas-y, coupe-moi encore une fois, tu vois. Non, mais moi, je rejoins plutôt le truc d'Alice, du fait que même si au début, tu sais, quand il rentre dans la pièce pendant qu'il s'entraîne, il dit ouais, tu me connais et tout. Je pense pas que ce soit plutôt un truc de frustré, il a pas réussi à faire sa carrière, mais je pense que c'est plutôt en mode, il a réussi sa carrière en tant que musicien, maintenant il veut la réussir en tant que professeur,
ouais.
Et pour ça, bah, il veut créer quelqu'un qui l'égale ou qui peut-être même le surpasse.
Mmh. Bah, surtout qu'il le surpasse.
Surtout, ouais. En plus, tu vois que le personnage, même au cours, enfin, je trouve qu'il devient imbuvable. Enfin, moi, le personnage, j'ai aucune attache avec lui, hein, celui qui fait de la batterie. Ouais, Andrew.
Ouais. Ah ouais.
Moi, je le trouve imbuvable au début à la vide. Fin. Hein.
Ah ben non, mais je trouve justement, en fait, ce qu'on peut comprendre, et ce qui est bien avec ce film-là, c'est qu'on voit souvent l'exemple de sportifs qui lâchent toute leur vie au profit de leurs rêves, et je trouve que en fait il est pas t'as dit quoi, enfin je trouve qu'il est pas un but de lui-même, etc., enfin qu'il est pas ouais, dégoûtant, je veux dire, je le trouve même attachant, c'est qu'en fait il se perd tellement dans son rêve que il a une telle passion pour la musique et une telle envie de réussir que il se perd, et à la fin bah il se retrouve,
bah non c'est pas mais... qu'il se perd, c'est qu'il se croit enfin
il non se il se croit pas supérieur, non
moi c'est ce que j'aime bien, c'est que en fait
ça l'aveugle,
c'est une sorte de présomption d'un mec qui est tellement obsédé qu'il sait qu'il va réussir. Du coup, il se permet d'être un peu présomptueux vis-à-vis des autres personnes,
ouais.
Parce qu'au fond de lui-même, il est tellement obsédé et tellement prêt à tout pour réussir, que moi je trouve que c'est beau d'être autant sûr de soi. Genre, il est vraiment sûr de soi au point de réussir. Il sait que t'as des gens, ils s'entraînent, etc., mais ils doutent toujours d'eux-mêmes, etc. Là, le mec ne doute pas. Genre, il sait qu'il est prédestiné pour ça, tu vois. Et quitte à être présomptueux, etc. Et peut-être
mais ça,
imbuvable.
Je suis d'accord.
Moi, je lui pardonne en vrai.
Bah, la plupart des films
je suis d'accord, mais sauf que Théma, comment il parle mal. Enfin, par exemple, tu vois, à la fille, genre, il lui dit clairement que c'est une merde de pas avoir d'ambition. Enfin, c'est le message qu'il lui fait passer. Je parle pas de élève à élève. Là, c'est le jeu, c'est la compétition, c'est dans le truc et tout, ok. Mais je trouve les personnes extérieures qui ont rien à voir avec ça, tu sais, qui se vantent un peu au début en mode bah ouais, moi j'ai réussi à gagner mon match. Ouais, bah tu joues que en division 2. Enfin, genre, c'est que des trucs en mode là, t'es pas en compétition avec eux, t'es en compétition avec ceux qui font de la batterie, t'es pas obligé de rabaisser les gens qui sont autour de toi.
Oui,
genre.
La scène, je la perçois pas comme toi, parce que justement, c'est on le prend de haut parce que lui fait de la batterie et que les autres.
On le prend de haut après, hein, pas avant le repas.
Si, on le prend de haut, enfin, en tout cas, de comme je le perçois, bien sûr. Genre, on le prend de haut parce que lui il fait de la batterie et parce que les autres font des trucs de plus démocratisés, de plus valorisés dans la société, qui sont être dans l'équipe universitaire, etc. Et le fait qu'ils se perdent, je trouve que c'est important dans le film, et c'est ça dans quasiment tous les films un peu de comment self-made men que qu'on voit, tous les Rocky, les Creed, etc. C'est que ces gens-là, pour moi, c'est tu ne peux pas réussir tant que tu n'es pas persuadé que tu es le meilleur parmi tout le monde. Enfin, pour moi, c'est impossible d'être le meilleur sans se persuader qu'on l'est. Et donc là, on voit bien que lui, il sera le meilleur parce que lui se persuade lui-même qu'il le sera. Enfin, je veux dire, et de ce cheminement-là qu'il fait, et même de mettre toute sa vie sur le côté, bah, je trouve que c'était important de l'avoir mis dans le film parce que je pense que c'est réaliste de la plupart des gens qui sont en haut aujourd'hui.
Qui ont réussi. Ouais.
Après, moi, je voulais revenir sur ce que tu disais, Clément, comme quoi ils s'étaient réconciliés à la fin. Mmh. Moi, je suis pas trop d'accord,
ah, ouais,
je ne perçois pas comme ça. Moi, je pensais plus, tu vois, dans le regard de Fletcher, tu as la fierté, en mode, je t'ai créé,
okay.
t'es devenu ce que je voulais que tu deviennes.
Ah, okay.
Et dans le visage de son père, tu sais, à la toute fin, genre, tu as les trois yeux, tu as les trois pierres d'yeux. Tu as Andrew qui est en mode, est-ce que je t'ai rendu fier, qui regarde Fletcher. Fletcher qui est en mode, ouais, frérot, t'es chaud. Et tu as son daron, on le voit en bout, qui est en mode, qu'est-ce que c'est ? C'est pas mon fils, ça.
Ah oui, ah,
t'as vraiment.
Ah ouais.
Ah ouais,
il est apeuré par son propre fils parce qu'il est en mode, ça c'est pas mon fils, mon fils.
Ah, tu l'as vu comme.
Enfin, ouais. Moi je l'ai vu comme ça.
Moi pour moi, ouais, l'entraînement de Fletcher, ça l'a déshumanisé. Genre c'est plus le même mec. Genre il est devenu différent. C'est... Et
ouais, c'est...
en vrai, dans la salle finale, on peut dire en soi, les deux ils ont gagné parce que le mec il est devenu tellement bon en musique que genre. Il a presque perdu son âme, on va dire, mais pour être le meilleur dans son art. Et le Fletcher, il a créé quelqu'un tellement bon. Enfin, les deux ont gagné, mais en même temps, c'est le père, du coup, il a perdu en quelque sorte.
Fletcher, lui, récupère sa notoriété en mode il est super bon musicien, il est super bon prof. Newman, lui, il arrive, il fait ce qu'il veut, il est meilleur dans la batterie. Mais vraiment, le visage, quand il part du truc. Il fait un câlin à son père et tout. Son père dit allez viens on rentre. Et il repart, il fait mais qu'est-ce que tu fais, genre c'est pas toi, genre toi t'as pas besoin de ça et tout pour être.
Mais je pense que c'est ça, c'est la morale. C'est genre il y a une ambiguïté morale, c'est-à-dire certes tu réussis, mais au profit de quoi? Et lui c'est au profit d'avoir tout mis de côté et comment c'est au profit d'un processus de qui est complètement toxique de A à Z. Et Fletcher, j'adore le personnage de Fletcher tout au long du film, mais on doit reconnaître qu'il y a de l'abus de pouvoir, il y a de la toxicité qui mène justement à un moment à un élève jusqu'au suicide. Et ça pose des questions aussi sur peut-être l'industrie musicale ou même le sport en général ou tous les gens qui réussissent. C'est-à-dire c'est des gens qui ont été tellement formatés, mais même avec des processus très durs, mais qui ont marché sur les autres pour être là où ils en sont aujourd'hui.
Revenir sur Fletcher, c'est vrai que c'est une dinguerie quand on y pense que le mec a quand même eu un accident de voiture. Il arrive en sang, genre sur le.
Newman du coup.
Sur la scène, Fletcher le professeur.
Ah.
Bah en gros, du coup, t'as Andrew qui arrive qui est en mode accident de voiture et t'as Fletcher qui ne pose pas de questions en mode ah ouais, il t'est arrivé quoi? Bah non, peut-être. Genre après, c'est son personnage. Mais moi, tu sais, je pensais à la limite qu'il allait être un peu en mode ouais, là, déconne pas. Ouais. Là, c'est vraiment en mode mais t'es foutu dans tous les cas. C'est vraiment
de la haine en mode. Mais peut-être que Fletcher, il va vraiment avoir un peu de compassion pour lui.
Ah ouais, mais non, vraiment, juste il l'insulte en mode.
On dirait un robot.
Moi, j'adore le personnage de Fletcher. Je trouve qu'il est génial. Enfin, en fait, même s'il est horrible. Enfin, il a aucune pitié, mais j'aime bien en même temps que. Enfin, je sais pas, genre. C'est son envie que les gens réussissent, même si ces techniques, elles sont vraiment plus que discutables. Mais c'est qu'il veut vraiment que les gens.
En fait.
Les gens réussissent, et je trouve que c'est bien en vrai.
Moi, je suis. Au final, là, vous m'avez changé mon avis tous. Parce que j'avais pas du tout vu le film comme ça, mais au final, je suis d'accord avec vous, et j'irai plus loin. En fait, je dirais que Fletcher, en fait, c'est un monstre de manipulation et d'égoïsme, et qu'en fait, tout ce qu'il fait pour rendre les gens meilleurs, en fait, il le fait pas pour les gens, il le fait pour lui. Donc c'est juste de l'égoïsme pur et dur. En fait, il a aucune.
Dans la dernière scène,
il a rien de. En fait, il a rien de. Là, enfin, c'est du coup là, vous venez de m'ouvrir l'esprit là. C'est vraiment, il a rien d'ouvert pour les gens. Enfin, il ne donne rien en fait. Il prend tout.
Ouais, mais au final, parce que.
Pour lui.
Enfin, je sais pas si c'est le cœur du débat, mais enfin, au final, ce que je voulais dire, c'était que même si c'est une bête d'égoïsme, enfin, ou un monstre d'égoïsme, comme tu l'as dit, sans Fletcher, donc sans un professeur, un but de lui-même, il n'aurait jamais réussi à faire le quart de ce qu'il est devenu à la fin dans la dernière scène.
Oui, mais
personne ne l'aurait poussé à devenir ce qu'il est. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est l'ambiguïté du truc, c'est à quel prix.
Ouais.
Et c'est justement, est-ce que c'est bien d'être le meilleur quand derrière il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ton prof, etc. Donc quand derrière t'as tout un tas d'échecs de O'Connell ou Connelly et tout machin, tous ces gens-là tu les laisses sur le côté, mais moi j'ai réussi. Donc certes t'es le meilleur, mais
et surtout heureusement qu'il y a le, par exemple le personnage du père qui je trouve c'est toute la différence
de
Andrew qui a pas rencontré Fletcher en fait. C'est l'artiste qui est un peu posé, qui s'est contenté de faire ce qui lui plaît, mais sans se pousser à bout. Mais en même temps, il a permis à Andrew de découvrir la musique, etc. Et en fait, vraiment, là, Andrew, même s'il est super bon à son art, mais il va jamais transmettre. Enfin, je pense que avec lui, il transmettra pas à son fils. Enfin, c'est différent, quoi. Donc, le personnage du père, c'est.
Même il arrive à le faire redescendre, même pendant le repas de famille, tu sais, lui dire en mode ah ouais, et du coup, Lincoln et tout, je sais pas quoi, ils t'ont accepté. Enfin, tu sais, ça l'a fait quitter la table. Mais ce que je voulais dire aussi sur Fletcher, c'est que, ouais, du coup, c'est un monstre d'égoïsme, de manipulation. Mais on voit quand même une partie du film, je pense qu'elle est un peu passée trop outre. Mais, enfin, je pense que c'est que dans la musique, parce que vous voyez, quand il parle à la fille de son ami, là, d'un coup, il devient vraiment tout gentil.
C'est ça que j'ai dit.
Ouais, tu viendras jouer avec moi.
Mais c'est pour
d'ailleurs,
ça que
je pense c'est là tout l'intérêt de cette scène.
Je suis pas d'accord. Enfin, tu as dit que ça t'a ouvert l'esprit, mais en fait, c'est que c'est pas un monstre d'égoïsme, ou alors que dans la musique, mais on voit qu'il a un côté humain et juste qu'il pousse les gens à devenir ce qu'ils ne pourront jamais être s'il n'est pas là pour les faire devenir.
Oui, mais oui. Oui, mais quand il fait ça,
je te la facture pas.
C'est gratuit, hein, non, mais je
j'ai pas trop compris ce que tu. mais quand il fait ça, justement, quand il, enfin, il devient hyper toxique avec la musique, il faut, enfin, c'est quelque chose duquel il devrait s'éloigner, en fait,
ouais, c'est vrai.
Parce que
puis
ça
c'est toute sa vie la musique.
Ça le rend dangereux, en fait. C'est au-delà d'être cruel, ça le rend dangereux. Il fait. Enfin, le mec a eu un accident quand même de voiture, Andrew. Il a une de ses élèves s'est suicidée. Enfin, ça le rend quand même. C'est pas.
Ouais, c'est toxique.
Mais donc, pour revenir au cœur du truc, pas du débat de base, mais je veux dire, je trouve qu'il a vraiment réussi à créer un film d'action, entre guillemets, tourné autour de la batterie et de la musique. Donc, de base, enfin, le poussé
à la batterie.
Batterie.
Ah, de la batterie.
Pardon, j'ai dit batterie. Ah oui, non, de la batterie. Et donc, ça, il l'a super bien fait avec des choix de musique qui, de base, j'écoute pas vraiment ce style-là, mais ça m'a plu, ça a réussi à me prendre. Et en plus, c'est les musiques que jouent les acteurs qui arrivent à te faire monter le stress. Enfin, je veux dire, c'est pas rajouté, quoi. Ils les incorporent au film.
Ouais.
La mise en scène, bon, elle est plutôt classique parce qu'en soi, il joue de la batterie, il se fait virer. Tac, il revoit un truc, il revoit Fletcher, enfin je veux dire, il n'y a rien de fou, mais il arrive avec.
Comment c'est fait, je trouve que c'est excellent. Enfin,
il a réussi à dynamiser quelque chose qui peut paraître.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais je pense
il a réussi à rendre la musique comme la boxe.
Mais le choix de prendre la musique, que ce soit un peu genre style jazz, rock, je trouve que c'est super important parce que, genre, je sais pas vous, quoi la vision que vous avez, mais. De jazz rock, moi j'ai un peu une vision un peu, il n'y a pas de règles,
les
règles et tout, alors que normalement genre dans ce genre de musique c'est un peu inspiration, c'est un peu tu fais selon ton talent, et genre c'est pas un talent,
on voit l'effort derrière qu'on voit pas
à la fin, si tu fais des il y a un produit à motif,
solo
Et de retour, donc super petit son vraiment qui était hyper, hyper cool, mais dans le film on se sent vraiment, bref je sais plus quoi dire, mais le son est vraiment bien comme le film. Bon, ensuite on va passer à la présentation de Drone par Clément, et puis ensuite on va débattre dessus. Bah vas-y Clément, on t'écoute.
Alors moi je vais pas faire très long, je vais être très bref. Puisque donc on a choisi de parler de l'album de Drones de Muse sorti en 2015. Et on a choisi ce film parce qu'en fait on trouvait qu'il avait, on va en discuter après, mais une forte dimension cinématographique, notamment de par les thèmes qu'il aborde, qu'on retrouve beaucoup dans les films d'anticipation, mais aussi de par sa production et ses ambiances qui nous rappelaient le monde du cinéma. Alors pour y voir plus clair, Muse, c'est un groupe de rock alternatif et progressif britannique qui est composé de Matthew Bellamy, le chanteur donc, Dominic Howard à la batterie et Chris Wolstenholme à la basse. Ces trois garçons, ils se sont rencontrés au collège dans les années 90 et ils ont officialisé le nom de Muse pour leur groupe de musique en 1994 après avoir gagné une Battle of the Bands à Tenumousse, donc leur ville d'origine. Ensemble, ils vont produire de très nombreux albums, notamment Showbiz, Origin of Symmetry, The Resistance et Absolution, donc qui sont leurs plus grands succès jusqu'à aujourd'hui, et Drones en 2015, qui intervient dans une période où le groupe il entend revenir à un style de rock plus pur, laissant plus de place au triptyque guitare-basse-batterie. Et cet album, il revêt une forte dimension politique, on va pouvoir en discuter après, puisqu'il aborde des sujets tels que la manipulation psychique, psychologique, la question des élites, de la manipulation des masses, la guerre, la mort et le soulèvement des populations. Et donc tout au long de cet album, en fait, on suit un personnage fictif qui est victime du système dans lequel il vit. Et donc le chanteur Matthew Bellamy, tout au long de cet album, il soulève des questions éthiques qui résonnent tout aussi amplement aujourd'hui, donc 11 ans après la sortie de cet album, qu'en 2015. C'est un album qui a été conçu pour être joué en live et qui, a, dès sa sortie, était un succès commercial, puisqu'il a été notamment numéro 1 des charts aux États-Unis pendant une semaine. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous avez apprécié cet album, les amis ?
On va faire un petit tour de table. Vas-y, Germain, t'en penses quoi ?
Moi, j'ai bien kiffé, ouais.
Mmh. Ok, merci.
Ah, fallait que je développe.
Non, bah comme tu veux, en vrai, si tu veux dire que t'as aimé ou pas.
Non, bah ouais, j'ai bien kiffé. Je connaissais pas du tout. Vraiment, le groupe, ma culture musicale est vraiment gaze. Mais je connaissais pas du tout. Et ouais, j'ai trouvé ça hyper. Bah déjà, les instruments, ils sont magnifiques.
Ouais, c'est.
Les mecs, ils jouent
c'est très bien produit.
Comme des dieux, c'est impressionnant. Et ce que j'ai bien aimé, c'était. C'était vraiment l'enchaînement des musiques. C'est-à-dire que au début, ça t'introduit tout ça. Après, tu passes dans un. Dans des musiques un petit peu bizarres, tu sais, ça te retourne un peu la tête, puis t'as une sorte de, je sais plus, je crois que c'est en plein milieu que t'as la musique assez longue qui te
ouais mais c'est que ça a été conçu en fait comme album, comme un opéra rock en fait, et du coup
en trois phases.
Non,
ouais, c'est ça exactement. Et donc en fait il y a trois phases. Il y a une première où en fait on a plus la présentation, il me semble, du personnage, donc on suit un peu son développement, son embrigadement en fait dans le système. Après, il y a une phase où il est vraiment sujet du système et il me semble donc où il est en fait conditionné, et du coup il est conditionné à détruire et à tuer. Et après, il y a une troisième partie donc avec plus son émancipation, sa révolte et sa remise en question du système dans lequel il vit.
Ouais. D'ailleurs, je voulais faire un truc, c'est qu'il y a donc dans le deuxième son, c'est un interlude. Là, c'est Drill Sergeant. Si je dis pas de bêtises, c'est tiré. Enfin, ce qu'il dit, c'est en gros, c'est tiré de Full Metal Jacket, non ?
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Voilà. Et après, Psycho, c'est. Je sais pas ce que ça. Enfin, je sais pas si quelqu'un a une analyse des sons à peu près ou quoi. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Je sais pas si j'ai pas tout compris les paroles et tout, mais dans Psycho, ça a vraiment d'être ça.
Ouais.
Le fait un peu, il rentre Psycho, dans cette espèce d'endoctrinement.
Ouais, c'est le meilleur son de
ce fait vraiment, qui est vraiment très bon. Et j'ai beaucoup aimé le petit interview de Stanley Kubrick. Enfin, du coup, de Full Metal Jacket.
Full Metal Jacket. Et aussi, il y a un petit discours, une petite partie du discours de JFK, de John Fitzgerald Kennedy.
Ouais.
Et en fait, ça apporte à
dans
l'ambiance. Non, c'est vraiment un son à part dans l'album.
Ah oui, ok. Oui,
okay. Et en fait, je trouve que ça amène bien l'ambiance. Et en fait, il y a ce côté un peu post-apocalyptique qu'on retrouve vraiment beaucoup. Et même en vrai, au niveau de la musique, des instruments, c'est bah franchement je sais pas si vous l'avez vraiment, enfin je pense que vous avez dû vraiment le voir, c'est beaucoup on entend, enfin les instruments principaux c'est vraiment la guitare, la batterie et la basse, et tu le ressens vraiment, t'as des gros riffs. Après t'as la voix de Mathieu Bellamy qui peut déplaire à beaucoup. C'est une critique qui a été faite, je sais, j'ai eu beaucoup de critiques qui disaient que bon, en fait, sa voix au chanteur, elle l'insupportait, etc. Moi, ça me plaît parce qu'elle est très mélodieuse et en fait, bah, ça dénote bien avec le gros rock qui nous font, quoi.
Ouais, et mais je pense que ce que je trouve le plus fou dans cet album, c'est que quand tu écoutes tout l'album en entier, c'est très rare que j'écoute des albums comme ça tout d'un coup. Et franchement, genre c'est pour ça qu'on l'a pris aussi sur ce thème-là, c'est que ça fait vraiment, t'as tout qui te vient en tête, t'as des images.
Exactement. Moi,
j'ai vraiment ressenti les trois premières chansons, quatre premières chansons, je me suis vraiment senti stressé. Carrément, à un moment, j'ai dû faire pause parce que je me souviens, je faisais la vaisselle, il y avait de l'eau partout, ça m'énervait. Et ça me stressait. Et après, c'était vraiment presque libération, ça m'a rendu heureux et tout. Enfin, c'est vraiment, tu passes par différentes phases.
Et t'es un homme de goût.
C'est vrai. Ah ouais, franchement. Et même la chanson The Globalist, si je peux faire une petite référence à Dieu. Mais non, mais genre, ça a vraiment fait penser. Genre, je sais pas s'ils ils ont pensé à ça ou quoi. Mais genre, vraiment, tu sais, quand Jésus, il part faire son... il jeûne dans le désert et tout, pendant le carême, etc.
Le carême.
Enfin, qui crée le carême. Genre, perso, moi, ces 10 minutes, j'ai vraiment l'impression que c'est passage dans le désert où tout, tu vois, il est lavé de cette...
Je pense que c'est, il y a aussi le côté, en fait, l'intro de The Globalist, il y a genre 2-3 minutes en fait où c'est vraiment de la musique de western dès le début.
Ouais.
Et en fait, je pense que c'est ça qui t'a mis dans cette ambiance désert, forcément. voilà.
Et Sarah, t'en as pensé quoi?
Bah moi, j'adore ce groupe, mais je connaissais pas du tout cet album. Et j'ai grave kiffé. En fait, j'écoute toujours les albums en... Vous savez pas,
en shuffle, comme, là.
Oui, voilà, c'est ça.
Yes.
Et là, j'ai vraiment écouté dans l'ordre et je m'attendais pas du tout, mais j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un film. Enfin, genre, comme tu dis, on voit vraiment les images et c'était trop kiffant de vraiment suivre les trois parties, comme t'as pu dire, Clément. Et ouais, moi, le même son que toi, je sais plus le nom.
The Globalist.
Bah, je m'attendais pas, genre, j'écoutais en même temps que je travaillais mes cours et je m'attendais pas à son et je me suis arrêtée en mode, c'est quoi ça, genre. Et c'était hyper kiffant. Après, c'était un peu long, 10 minutes pour moi.
Ouais,
mais,
c'est compréhensible.
Mais genre, avec le dernier son, je trouve que ça allait hyper bien. Et moi, j'ai grave kiffé Joel Sergeant et Psycho, genre l'enchaînement. C'était vraiment parfait. Genre,
ouais, ça, le petit conditionnement en mode de, ouais, tu vas écouter, tu vas répéter.
Et tu le rentends dans le son de Psycho, ce passage-là, t'as et fonds, j'ai bien aimé.
Et puis, ouais, même après je sais pas si Alice a des analyses des paroles. Mais en tout cas, Psycho, c'est vraiment, enfin, même Full Metal Jacket et Psycho, j'ai l'impression, parce que Full Metal Jacket, c'est vraiment parler du fait que pendant le Vietnam, les soldats étaient vraiment conditionnés à tuer, etc., à avoir aucune émotion. Et je sais pas du tout, je sais pas si Alice a des trucs là-dessus, mais vas-y, du coup.
En gros, moi, je suis allé chercher parce que du coup, je comprends pas trop les paroles en anglais et j'ai vraiment voulu comprendre l'album parce que déjà, les sonorités, en vrai, ils disent beaucoup sur l'histoire, mais je trouve que c'est bien d'avoir de trouver des analyses. Et du coup, en gros, c'est hyper intéressant. L'analyse que j'ai trouvée, c'était sur Reddit. J'ai plus trop le mec, je suis désolée s'il écoute. C'était mieux.
En gros,
du coup, je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on a plusieurs angles d'analyse de tout l'album et chanson par chanson, soit on peut percevoir ça sur un monde dystopique, soit sur le monde de la guerre, ou soit d'une relation personnelle en mode l'agresseur et l'agressé, d'une relation toxique et tout ça. Et c'est vrai que quand on regarde les paroles, tout peut s'assimiler à tout. Par exemple, en gros, le pitch de l'histoire, de ce que j'ai compris, c'est... Donc t'as un personnage au tout début de l'album qui est oppressé, et à la fin de l'album, il se révolte contre son oppresseur, il rencontre un mec qui est aussi oppressé, ils vont se révolter contre son oppresseur et à la fin ils vont finir ensemble. En gros, c'est un peu ça. Et du coup, ça on peut le mettre dans tout le contexte, que ce soit l'amour, la guerre, les mondes dystopiques. Et même dans The Globalist, pareil, on en parlait tout à l'heure, il a fait une analyse assez spéciale que tout le monde a dit je l'avais pas capté comme ça, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Comme quoi, du coup, le premier personnage qui aide le deuxième personnage à se révolter, ce deuxième personnage se serait fait violer. Apparemment, The Globalist, ça paraît un peu de viol d'une manière incertaine et tout ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin voilà, et du coup là chanson par chanson on parle toujours de comment sortir un peu de cette oppression, que ce soit personnelle ou étatique entre guillemets. Enfin voilà, et du coup je trouve ça trop intéressant même à travers les sonorités. Par exemple, à un moment dans The Globalist, toujours il y a un solo de guitare Et celui qui analysait, il disait solo de guitare, je trouve qu'il représente un peu les deux personnages qui fuient leur oppresseur.
Ouais.
Enfin, la cavale et tout ça, enfin, bref.
Pour compléter ton propos sur les critiques, moi j'aime bien regarder du coup des critiques qui sont parfois négatives sur des, sur des projets. Non, et, donc j'ai vu des gens qui écoutent beaucoup de musique rock. Une des critiques en fait qui pouvait être faite, c'est sur les paroles de Matthew Bellamy, en fait c'est des paroles qui sont très consensuelles. C'est comme si il y en a une qui disait imaginez-vous faire un album de une heure où vous dites c'est pas bien la guerre, c'est pas bien de tuer. Et en vrai c'est assez vrai, mais du coup je trouve que la critique que moi j'apporterais à cette critique là, c'est que il est pas tombé non plus dans le c'est pas vide de sens quoi. Aujourd'hui même rien que dans le titre Drone,
encore plus aujourd'hui
quand on voit en 2026 que par exemple je prends en Ukraine, la guerre c'est plus fait par des hommes mais par des drones. Aujourd'hui la guerre elle se passe sur le cyberespace, tout ce genre de choses, je trouve que ça résonne vraiment encore plus aujourd'hui.
Après 2015 c'était il y a pas si longtemps aussi, je pense que
il y a 11 ans.
Oui, c'est vrai, mais il y avait déjà les guerres étatiques qu'on
connaît. Oui, mais c'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, ça va à vitesse grand V. Je pense que au niveau même des drones, je pense que ça
évolue vite.
Vraiment l'exemple nul, mais du coup au niveau des drones, je sais pas, il y a 10 ans, je sais pas, ils mettaient ça existe toujours, mais mettaient des explosifs sur des petits trucs qui volent. Maintenant, c'est tellement plus sophistiqué et plus développé. Et c'est plus démocratisé aussi.
Mais en plus, je dis pas de bêtises, le drone en anglais, c'est pas forcément que le drone qui vole, ça peut être aussi. Ça peut être aussi genre les automates, les robots, etc.
Ouais, exactement. Ah,
okay. Et ça, qu'on peut faire comme parallèle, tu sais.
Ouais.
Le fait de. Je pense qu'on peut voir. Il y a une fin qui est quand même assez logique, qui est la fin en soi où on se libère. Mais aussi, le mot drone, comme tu dis, ça peut être par automate. Et du coup, on peut voir une fin plus triste et plus. Qui peut malheureusement arriver, où l'homme il devient en fait vide de sens parce que il suit
le conditionnement qui est pas.
Donc en fait il devient tout vide et ça devient un automate.
Moi je sais pas vous, mais je trouve que la cover elle m'a vraiment influencé dans l'écoute. Je me suis jamais mis dans un espèce de monde.
Oui. Cette main là avec la poignée.
Et les personnages derrière qui sont tous
en l'écran.
Moi je 184 un peu.
Exactement,
c'est Machalak.
Michalak. Vous avez vu aussi les artworks ou pas ? Je sais pas si vous. En gros, juste il y a des covers un peu, des images pour chaque chanson de l'album avec des dessins dans le style de la couverture. Et du coup, ça représente un peu les chansons. Allez tous voir, les gars.
D'accord, j'ai pas vu ça du tout, je trouve ça très intéressant.
Tu trouves ça où, Alice ?
Tu te marques artwork Drone the Muse, je sais pas.
Et du coup, pour faire un parallèle aussi avec un autre film, récemment on a vu Orange Mécanique. Ouais. Et en fait, ce conditionnement de l'homme, du coup, on retrouve cette thématique-là,
du conditionnement
de l'homme. Exactement, le traitement Ludovico qui, en fait, a pour objectif de faire devenir un homme qui est très mauvais, qui est un criminel irrécupérable selon la société. Et en fait, ce traitement-là, il a pour but de faire redevenir un homme bien vertueux. Sauf qu'en fait, il y a énormément de questions éthiques qui se posent. Parce que, en fait, petit spoil, attention, à la fin, il redevient tout aussi criminel et fou qu'il a été auparavant. Et on voit que ce traitement-là, en fait, il dénature totalement l'homme. Et vouloir changer la nature de l'homme, intervenir dans ce processus-là, ça peut paraître contre nature et extrêmement contraire à l'éthique de certains.
De ouf. Et en parlant de l'éthique, là, du coup, je suis retombée sur certaines paroles de Psycho, et du coup, qui est du point de vue de l'agresseur. Et là, du coup, je trouve là, ça fait écho énormément à ce qu'on voit dans le monde actuel. Juste, j'aurais besoin de quelqu'un comme toi, quelqu'un qui tuera à mon commandement et ne posera aucune question. En mode.
Ça me fait penser beaucoup à Lice.
Je
sais pas vous, mais je trouve ça extrêmement terrifiant de voir que dans un pays aussi développé que les États-Unis,
censé être démocratique,
qui prône la liberté à tout va, une milice, clairement on peut appeler ça une milice, se balade dans les rues, tue des gens à bout portant parce qu'ils ont regardé de travers et qu'ils ont filmé avec leur iPhone 15 Pro Max. Moi je trouve ça édifiant.
Et personne dit rien.
Je trouve ça édifiant et personne dit rien. Minneapolis s'est soulevé, ils ont quand même fait reculer l'État. l'État fédéral, hein, c'est quand même pas rien. Et je voulais souligner ça, et je trouve ça, ben, je trouve c'est un beau parallèle quand même avec avec cet album-là, et ben, voir que en fait tout n'est pas perdu finalement, si on la révolte existe, et si on s'engage et si on s'unit, on est plus fort que on est plus fort que ceux
qui nous oppriment,
que nos oppresseurs, exactement.
Et c'est un beau
voilà,
message.
Je trouvais ça beau.
Clément Président.
Mais ouais, franchement, mais même. Par exemple, bah, je pense que ce genre d'album, ça pourrait être vraiment un épisode de Black Mirror. Enfin, genre, c'est vraiment. Je trouve le thème, enfin, oui, mais de toute façon, on l'a dit, hein, c'est dystopique, c'est t'es opprimé, puis tu te révoltes, et voilà. Mais ouais, franchement, ou même si c'était en film plutôt, bah, franchement, Stanley Kubrick, ça serait vraiment ce genre de film qui pourrait adapter. Enfin, pour faire le lien avec le film et tout, mais je pense que ouais, c'est un peu le
après, même. Après, la fin, elle est quand même idéale. Genre, il est opprimé et d'un coup, il se révolte et tout va bien au final. C'est pas.
Vrai qu'il y a
ouais, mais dans le côté de la réalité n'est pas forcément toujours comme ça.
Justement, en fait, dans la chanson finale, bah, pareil, le mec qui analyse dit que justement, on voit quand même qu'il y a un truc de. Les agressions qu'il a subies, les violences, bah, ça lui a laissé des traces. Et je trouve qu'on le sent dans la chanson même. Les voix, apparemment, les voix derrière un peu dans la dernière chanson, genre, c'est un peu les voix des victimes aussi.
Ouais, les traumatismes, quoi. Enfin,
voilà, quoi. Ouais. Bon, bah écoutez, c'était hyper intéressant. Je pense que pour que vous compreniez un peu plus de quoi on parle, on va s'écouter tout de suite Psycho, qui est, je pense, unanimement le meilleur son de l'album, en vrai.
Oui.
Bah, on se revoit tout de suite. Et puis, écoutez, j'espère que ce petit débat vous a plu et on se retrouve après la musique. Bête de son, vraiment, je pense, le meilleur de l'album. Écoutez, moi, j'ai vraiment kiffé ces deux petits débats. C'était hyper intéressant. En plus, la musique. Moi, j'ai découvert un nouveau genre que je connaissais pas trop. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Bah, j'espère que les auditeurs aussi ont kiffé. Que vous avez passé une bonne heure, vous êtes détendu, etc. Et que les débats vous ont intéressé. Perso, j'ai kiffé. Donc, je vais remercier Alice à la régie, Germain, Clément, Titouan, Sarah et Victor. Et bah écoutez, on se voit le prochain dernier mercredi du mois, donc en février. J'ai pas la date exacte, mais on va se revoir, vous inquiétez pas. Et bah écoutez, on se dit à plus et bisous. Retrouvez nos programmes sur le www.radiocampusangers.com et sur toutes les plateformes de podcast.